RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Dans ce journal, le Qatar et la Jordanie saluent les déclarations d'Emmanuel Macron hier.
Le président français qui appelle les pays concernés, sans citer nommément les États-Unis, à cesser de livrer à Israël des armes utilisées à Gaza. Colère de Benjamin Netanyahou hier. Nous sommes à Jérusalem dans un instant. Le Proche-Orient à la veille du premier anniversaire des massacres du Hamas en Israël. Ils avaient fait près de 1200 morts. Point de départ de la sanglante opération de représailles à Gaza, 42 000 morts et de nombreuses familles séparées par la guerre. Reportage d'RFI dans ce journal. Dans cette édition également, un couac diplomatique entre la République démocratique du Congo et la France hier, au dernier jour du sommet de la francophonie. Elon Musk en premier supporter de Donald Trump en Pennsylvanie. Et puis une exposition qui retrace la vie d'un acheteur d'art passionné et compulsif, le collectionneur Heinz Berggruen au musée de l'Orangerie à Paris.
Emmanuel Macron se prononce pour l'arrêt des livraisons à Israël d'armes utilisées à Gaza.
Oui, c'était hier, déclaration en clôture d'un sommet de la francophonie à Paris. Je pense que ceux qui fournissent ces armes ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Voilà pour la déclaration. Tout de suite, on retrouve Michel Paul en direct avec nous de Jérusalem. Bonjour.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Michel, la réponse israélienne ne s'est pas fait attendre.
Oui, c'est une déclaration du président français perçue ici en Israël comme visant essentiellement les États-Unis, mais elle provoque en tout cas un échange plutôt acerbe entre les deux pays, frisant l'incident diplomatique et en tout cas la colère de Benjamin Netanyahou.
J'ai un message pour le président Macron. Aujourd'hui, Israël se défend sur 7 fronts en même temps contre les ennemis de la civilisation. Et alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigées par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement à ses côtés. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes contre Israël. Honte à eux.
Longtemps après la victoire d'Israël, ajoutait le Premier ministre israélien visiblement hors de lui dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Et de son côté, l'Élysée a publié dans la soirée une mise au point, assurant que la France est l'ami indéfectible d'Israël et a déploré les mots excessifs de Benjamin Netanyahou. Et curieusement, pas d'autres réactions ce matin à cet échange peu diplomatique, mais on peut rappeler, Jeanne, que les États-Unis sont traditionnellement le plus important fournisseur d'armes à Israël et que le mois dernier, la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle cessait de fournir certains types d'armements à l'armée israélienne.
Michel Paul, merci en direct avec nous de Jérusalem. Les bombes israéliennes qui continuent de frapper massivement le sud de Beyrouth cette nuit. L'agence officielle de presse libanaise fait état de plus de 30 frappes peu après des appels israéliens à évacuer plusieurs quartiers de ce fief du Hezbollah. À Gaza, c'est une mosquée transformée en abri pour les déplacés à Deir el-Balah qui a été prise pour cible cette nuit, faisant 21 morts selon la défense civile de Gaza. L'armée israélienne dit avoir mené une frappe, je cite, précise sur des terroristes du Hamas.
Et à la veille du premier anniversaire des massacres du 7 octobre, le patron de l'ONU a lui lancé un appel à faire cesser les armes.
Écoutez, Antonio Guterres, il s'exprimait cette nuit.
L'heure est venue de libérer les otages, de faire taire les armes, de mettre fin aux souffrances qui engloutissent la région. L'heure est à la paix, au droit international et à la justice.
Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui s'exprimait donc, on le disait, à la veille des commémorations des massacres perpétrés par le Hamas en Israël, qui ont fait 1189 morts, dont 815 civils, 101 otages sont toujours retenus à Gaza. Au moins 35 ont été déclarés morts. L'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire d'Israël, qui marque également le début de la guerre à Gaza et le carnage qui y est commis par l'armée israélienne. Le massacre de près de 42 000 Palestiniens. Des centaines de milliers de déplacés. Notre correspondant à Jérusalem et Rami Al-Maghari, reporter à Gaza, nous raconte ce matin l'histoire bouleversante d'une mère qui vient de retrouver ses enfants après 9 mois de séparation. Leur reportage.
Aujourd'hui, la petite Aïcha a 9 ans et son frère Omar 7 ans. En décembre dernier, des frappes visent plusieurs maisons dans leur quartier à Gazaville. Au milieu du chaos, ils sont séparés de Wafira, leur mère.
On a été sortis des décombres, des bombes s'abattaient encore. On ne voyait rien, il y avait de la poussière partout. J'avais avec moi mon plus jeune fils. Mais mes deux autres enfants, Aïcha et Omar, étaient avec leur père. Ils ont été sortis des décombres de l'autre côté de la maison. Il y avait une montagne de gravats entre nous.
Wafika essaye de joindre Mostafa, son mari, au téléphone.
Il m'a dit « Fuis vers le sud, on se retrouvera là-bas ».
Wafika l'ignore à ce moment, mais son mari est blessé. Il décédera dans la foulée.
J'étais à Rafah, dans le sud, chez ma sœur, lorsque j'ai reçu un appel. Mon beau-frère m'a annoncé que mon mari était mort. C'est tellement dur.
Au deuil s'ajoute le drame de la séparation avec ses deux aînés, confiés à des proches dans le nord de Gaza.
J'ai essayé de contacter la Croix-Rouge en vain. Puis je suis tombée sur une annonce de SOS Village d'Enfants. Il était écrit « Les familles séparées peuvent contacter ce numéro ». J'ai appelé durant des mois sans succès. Et puis un jour, quelqu'un a décroché. On m'a mis en contact avec l'UNICEF. Et après 9 mois de séparation, c'est l'UNICEF qui m'a ramené mes enfants, le 27 août dernier.
Il y a plusieurs mois déjà, l'UNICEF estimait à 17 000 le nombre d'enfants non accompagnés ou séparés à Gaza. Rami El-Merali, Gaza, Sami Bourkifa, Jérusalem. RFI.
Un reportage que vous pouvez retrouver à tout moment sur le site et sur l'application d'RFI.
Et RFI qui sera en édition spéciale demain matin pour analyser cette année de guerre au Proche-Orient. Le Proche-Orient, il en a été question hier au deuxième et dernier jour du sommet de la francophonie, Jeanne.
Avec une déclaration de soutien au Liban, des réunions à huis clos, des chefs d'État et de gouvernement qui avaient lieu dans l'après-midi et qui auront été marquées cette dernière journée par un couac diplomatique entre la France et la République démocratique du Congo au sujet du conflit dans l'est de la RDC. Explication Pierre Firsion.
Dans son discours d'ouverture du sommet vendredi, Emmanuel Macron plaide pour une diplomatie francophone qui défende l'intégrité territoriale partout à travers la planète. Il cite alors plusieurs terrains de conflit, l'Ukraine, le Proche-Orient, l'Arménie, mais ne mentionne à aucun moment l'est de la RDC. Un oubli que goûte peu Félix Tshisekedi. Conséquence, le président congolais boycotte le huis clos des chefs d'État samedi après-midi, après avoir pourtant participé aux discussions du matin, et boude également le déjeuner offert par la secrétaire générale de l'organisation, Louise Mushikiwabo. Qu'il n'y ait pas de malentendu, réagit Emmanuel Macron en fin de sommet, je n'ai été que parcellaire dans les citations, et il y a beaucoup de crises, de tensions, de guerres que je n'ai pas citées, et le président français d'ajouter...
Pour ce qui est de la France, nous avons toujours été clairs. Nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR.
Il n'y a pas de double standard dans la diplomatie de la France, assure le président français en conclusion. Un point de vue que ne partagent visiblement pas les autorités congolaises.
Pierre Firsion du service Afrique d'RFI. Les bureaux de vote ouvrent dans une heure maintenant en Tunisie, élection présidentielle face au président sortant Kais Saied. Seuls 2 candidats ont été autorisés à se présenter. Nous serons en direct de Tunis dans le journal de 9h.
La politique aux États-Unis, un peu moins de 3 mois après y avoir été blessé à l'oreille dans une fusillade, Donald Trump était de retour à Butler hier.
Dans l'état-clé de Pennsylvanie pour réaffirmer auprès de ses supporters sa stature d'homme fort et présidentiel, le tout avec un soutien de taille à ses côtés, le milliardaire et patron de Tesla, Elon Musk, envoyé spécial à Butler, Guillaume Nodin.
La musique du film Top Gun souligne le passage de Trump Force One, l'avion personnel de Donald Trump, au-dessus de milliers de personnes ravies. Quelques minutes plus tard, ses partisans scandent son nom alors que l'ancien président s'apprête à leur parler derrière des vitres blindées. Laurie était là le 13 juillet, elle est revenue écouter la fin du discours.
Je voulais soutenir son cran, sa bravoure, son courage. C'est vraiment lui, c'est un combattant. Et s'il peut prendre une balle pour moi et pour nous tous, je peux revenir et le soutenir, c'est sûr.
À côté d'elle, il y a Ingrid, elle aussi venue écouter la fin d'un discours dont elle retient un message, les Américains d'abord.
Il y a un désastre en cours dans le sud-est des États-Unis et ces gens vont avoir 750 dollars après avoir tout perdu. Mais ils ont trouvé 152 millions ou je ne sais pas combien pour envoyer au Liban. On a de l'argent à envoyer au Liban et 750 dollars pour des citoyens américains et franchement, c'est n'importe quoi.
Pendant ce temps, Donald Trump continue de parler, sauf pour céder la parole à l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pour un message simple.
Vote, vote, vote.
Votez, même par correspondance ou en avance, et c'est nouveau dans le discours trumpiste. Guillaume Nonin, Butler, RFI.
En France, une marche blanche organisée hier en hommage à Gisèle Pélicot.
Elle avait lieu à Mazanville où résidait Gisèle Pélicot jusqu'à l'arrestation de son mari qui avouait l'avoir droguée, violée et faite violée par des dizaines d'hommes. La marche était organisée par l'association Isofaculté qui vient en aide aux victimes de violences grâce à l'équitation. Reportage Tanita Fallet.
Un hommage en chanson après plus de 2 km de marche. Au centre équestre de Mazan, les femmes aidées par l'association Isofaculté témoignent devant près de 350 personnes.
Ça me touche énormément en fait de voir qu'il y ait autant de monde qui soutient Gisèle et qui me soutient par la même occasion en fait. Parce que j'ai vécu des choses un peu similaires à ce qu'elle a eu.
Et toutes se retrouvent en Gisèle Pélicot.
C'est vraiment cette affaire-là qui leur a permis d'avoir la force.
Chloé Sarah a co-organisé la marche.
La force de témoigner, la force d'être en tête de cortège, à visage découvert.
Dans le public, l'émotion des femmes s'essuie des yeux, touchées par les témoignages, comme Anne.
Je tenais à être là parce que c'est important de pouvoir la soutenir et faire voir qu'on est solidaire avec elle. Voilà.
Est-ce que cette phrase « il faut que la honte change de camp », ça vous parle ?
Oui, tout à fait. Et au contraire, il ne faut surtout pas avoir honte et bien marcher la tête droite.
Parmi les centaines de personnes présentes, certaines se rendent tous les jours au tribunal d'Avignon pour assister au procès et espère que ce soutien fasse définitivement changer la honte de camp.
Le reportage de Tanita Fallet. Enfin, il était l'un des acteurs majeurs du marché de l'art du XXe siècle à Paris. Heinz Berggruen, marchand et collectionneur allemand juif, exilé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, fréquentait les plus grands artistes de son temps. Le musée de l'Orangerie à Paris lui rend hommage à travers une exposition que nous présente Carmen Lunzmann.
Cela valait la peine de vivre au XXe siècle pour avoir rencontré Picasso, disait Heinz Berggruen, collectionneur d'art passionné et acheteur compulsif. Près de la moitié des 500 œuvres en sa possession sont signées du maître catalan. Au musée de l'Orangerie, Dora Maar aux ongles verts et un arlequin assis de la période rose font face au grand nu couché de 1942 qui traduit dans les couleurs sombres et des formes cubistes les horreurs de la guerre. Claire Bernadi, commissaire de l'exposition.
Heinz Berggruen, né en Allemagne en 1914, a traversé toute l'histoire lourde du XXe siècle. Il a fait des études de journalisme et commencé à écrire ses premiers papiers quand la Seconde Guerre mondiale, la montée du nazisme s'est fait sentir. D'origine juive, il a très vite compris qu'il ne pouvait plus signer de son propre nom et a décidé de fuir l'Allemagne. Il avait travaillé au San Francisco Museum of Art aux États-Unis et il est revenu en Europe avec l'armée américaine chargée de la dénazification de la presse. Il décide de rester en Europe. Il s'installe à Paris.
C'est là qu'il découvre sa passion pour l'art et ouvre une galerie où il défend les papiers découpés de Matisse, les sculptures élancées de Giacometti et l'œuvre singulière et poétique de Paul Klee. Que leurs œuvres soient accrochées dans un espace public signifie pour Berggruen qu'elles respirent. Chose désormais faite à l'Orangerie de Paris.
Carmen Lunzmann et l'exposition est à découvrir donc au musée de l'Orangerie jusqu'au 27 janvier prochain.
Merci Jeanne Bartoli, à tout à l'heure. RFI Matin, deuxième heure. Dans un peu moins de 20 minutes, un nouveau point sur l'info africaine alors que les bureaux de vote doivent ouvrir dans moins d'une heure en Tunisie pour la présidentielle. Alors qu'une partie de l'opposition appelle à boycotter un scrutin qu'elle dénonce comme verrouillé pour Kaïs Saïed. Mais tout de suite les sports. Avec vous Victor Missistrano, à la une, le football, tout d'abord en France, où Monaco a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 hier soir.
Avec un succès 2-1 sur le terrain de Rennes, grâce à des réalisations de Kerrer et Balogun, le club de la Principauté montre qu'il est bien le principal concurrent du Paris Saint-Germain pour le titre. Trois jours après le nul à Zagreb en Ligue des Champions, cette victoire fait beaucoup de bien, comme l'explique le défenseur ivoirien de l'ASM, Wilfried Tsingo.
Ça fait vraiment plaisir. On n'a pas eu beaucoup de temps de repos, mais avec l'état d'esprit et le travail que nous avons fait tout au long de cette semaine, c'est vraiment un bon point à prendre à l'extérieur. Ouais, c'était un peu divers à la fin, je pense. Mais après, c'est un travail collectif. On était tous à fond. On était à cœur de gagner ce match. Et ça se fait sentir sur le terrain et on va prendre du plaisir à continuer comme ça.
Monaco qui compte 3 points d'avance sur Paris et déjà 5 sur Marseille qui complète le podium. Lille est juste derrière. Vainqueur du Real Madrid en Ligue des Champions, le LOSC a enchaîné en gagnant 2 buts à 1 à Toulouse.
Ce soir, le PSG va donc tenter de revenir à hauteur des Monégasques.
Les Parisiens en déplacement à Nice en clôture de cette 7e journée. Ils vont tenter de repartir de l'avant et qui ont été sèchement battus 2-0 par Arsenal mardi en Ligue des Champions. La prestation de Gianluigi Donnarumma a particulièrement été pointée du doigt. Le gardien italien pas impérial sur les 2 buts. Il garde toute la confiance de son entraîneur Luis Enrique.
Non, t'as aucun problème.
Je n'ai aucun problème avec lui. Je pense que Donnarumma n'est pas fautif sur les 2 buts. La situation aurait dû être réglée avant mon arrivée ici. Ça n'a pas été le cas. Et derrière, notre gardien se fait critiquer. Après une défaite, c'est triste de taper sur un joueur, quel que soit son poste. Concernant Donnarumma, je suis habitué à le voir pointer du doigt. Mais peu importe, j'ai confiance en ce que je vois au match et aux entraînements. Tout le monde peut faire des erreurs. Ça peut aussi arriver aux joueurs parfois. Dans ce cas, s'il faut viser un fautif, visez l'entraîneur, mais laissez Donnarumma tranquille.
Luis Enrique avant Nice PSG. Julien, le coup d'envoi, c'est à 18h45, temps universel.
En Espagne, le FC Barcelone a l'opportunité de reprendre de l'avance en tête du classement.
Le Barça se déplace du côté d'Alavés, coup d'envoi 14h15, temps universel. Hier, le Real est revenu à égalité. Les Madrilènes, vainqueurs de Villarreal 2-0 grâce à des buts de Valverde et Vinicius. Kylian Mbappé n'a pas marqué, mais il était bien titulaire, ce qui nourrit une petite polémique. De retour d'une blessure à la cuisse, le capitaine de l'équipe de France a, on le rappelle, déclaré forfait pour le rassemblement des Bleus qui débute demain.
On poursuit notre petit tour d'Europe en Angleterre où tous les cadors ont gagné hier après-midi.
Victoire précieuse du leader Liverpool 1-0 sur la pelouse de Crystal Palace grâce au Portugais Diogo Jota. Les deux principaux concurrents des Reds gardent le rythme et ne sont qu'à un point. Le tenant du titre, Manchester City, a pris le meilleur sur Fulham, 3-2, avec un doublé du Croate Mateo Kovacic. Victoire d'Arsenal, 3-1, face à Southampton.
Et puis gros choc en perspective cet après-midi en Allemagne.
Oui, entre le Bayern Munich et son dauphin Francfort. Coup d'envoi 15h30, temps universel. A signalé hier la défaite de Dortmund. Le Borussia battu 2-1 par l'Union Berlin. Et le deuxième match nul d'affilée du Bayer Leverkusen, 2-2 face à Kiel, malgré un nouveau but du Nigérian Victor Boniface. Et puis en Italie, l'Inter Milan champion en titre revient sur les talons du Napoli. Les Milanais ont battu le Torino 3-2 grâce à un triplé de Marcus Thuram. Enfin aujourd'hui, autre rendez-vous, Julien, place à la finale de la Coupe du Monde de futsal cet après-midi en Ouzbékistan. Un classique, Brésil-Argentine, c'est à 15h, temps universel.
Merci Victor Messistrano, à tout à
l'heure. RFI Matin.
C'était il y a 60 ans quasiment, jour pour jour, le 8 octobre 1964, en pleine guerre froide. La France mettait en œuvre pour la première fois la dissuasion aéroportée, une première bombe nucléaire à gravitation chargée sur un avion. C'était un Mirage 4. Dans ligne de défense ce matin, état des lieux de cette dissuasion française dans les airs. Aujourd'hui, les moyens ont suivi les évolutions technologiques, géopolitiques et opérationnelles, Franck Alexandre.
Depuis la première prise d'alerte sur la base de Mont-de-Marsan, le 8 octobre 1964, les forces aériennes stratégiques sont l'une des clés de voûte de la dissuasion française. Le rôle de l'armée de l'air est certes indissociable et complémentaire de la composante océanique, les sous-marins lanceurs d'engins balistiques, mais aux yeux du général Jean-Patrice Le Saint, qui cet été a quitté ses fonctions de chef d'état-major des forces aériennes stratégiques, la dissuasion aéroportée a des atouts bien spécifiques.
Le premier atout, c'est l'arme. Et l'arme aujourd'hui, c'est un missile de croisière extrêmement précis. Le deuxième atout de la composante aéroportée, c'est qu'elle est mise en œuvre à partir de bases aériennes, qui sont des infrastructures visibles. Ce qui permet, dans le cadre de la dialectique nucléaire qu'engagerait le président de la République, de bien matérialiser son attention.
Depuis les bases d'Istres, Avord et Saint-Dizier, plus de 2000 aviateurs sont chargés de la mise en œuvre de la dissuasion par les airs, la composante nucléaire qui se voit, selon la formule, formule du président Hollande, car s'il est impossible de rappeler un missile balistique, la réversibilité d'un raid aérien est toujours une option jusqu'à un certain point, général Le Saint.
À partir du moment où le raid est engagé, les équipages poursuivront la mission jusqu'au bout, mais jusqu'à ce point de l'engagement, il est possible de rappeler le raid. Et donc, il est possible de lui faire parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant de l'engager. Et le fait qu'il y ait le raid qui transite, c'est quand même un signal assez fort qui incite à réfléchir.
Un signal fort qui repose sur la crédibilité, c'est le cœur même du concept de dissuasion, insiste Jean-Patrice Le Saint.
Cette crédibilité, elle a trois dimensions. Une première dimension politique qui est incarnée par le président de la République, le détenteur du feu nucléaire. Le deuxième volet, c'est la crédibilité technologique. C'est ce qui permet en fait de garantir que nous sommes en mesure de concevoir des armes, que nous savons leur faire traverser les défenses adverses pour atteindre leur point d'explosion. Le troisième volet, c'est celui de la crédibilité opérationnelle. Et là, il y a un point qui est important, c'est que la crédibilité ne se décrète pas. En revanche, il y a certains paramètres qui permettent d'objectiver la crédibilité. Nous sommes crédibles parce que les équipages des forces aériennes stratégiques conduisent, et souvent de manière ostensible, des manœuvres, les opérations poker, qui, quatre fois par an, engagent dans un scénario extrêmement réaliste, une cinquantaine d'avions dans la simulation d'un raid nucléaire.
D'ailleurs, à chaque exercice poker, les satellites espions des grandes puissances braquent leurs antennes vers la France pour observer la manœuvre et mesurer justement la crédibilité de la dissuasion française.
Franck Alexandre pour Ligne de Défense.
RFI Matin.
RFI vous en a parlé tout le week-end, le sommet de la francophonie s'est refermé hier en France. Un rendez-vous aux accents diplomatiques sur fond de crise mondiale, mais aussi l'occasion de faire un état des lieux de la francophonie. 321 millions de locuteurs sur les 5 continents et une langue qui s'étoffe et se transforme partout où elle est parlée. On peut presque dire qu'il y a autant de façons de parler le français que de communautés qui le parlent. Trois exemples ce matin dans notre tour du monde des correspondants et cap sur le Québec. Québec, pour commencer, la deuxième province la plus peuplée du Canada, et c'est plus de 7,5 millions de francophones, avec un accent reconnaissable entre tous et des expressions bien à eux, Pascal Garicola.
Ici, on tombe en amour ou même on peut avoir le kick sur quelqu'un. Mais avant cette étape, par le passé, les Québécois aimaient bien se chanter la pomme, autrement dit se séduire. Une expression un peu vieillotte, mais qui fait toujours son effet. La rupture, elle, est moins fleurie. Tout bonnement, le couple casse. Pire, on peut se faire crisser là, donc abandonner ou même domper par son ou sa partenaire. Pas très gai en sachant que la dompe, c'est aussi la décharge publique. Cependant, quoi de mieux que la colère pour libérer les expressions ? Cela commence modestement, en étant choqué. Puis l'émotion prend de l'ampleur. La personne est en maudit, en motadie même. Elle pogne les nerfs, se sent en beau fusil, pire, en beau joualvert. Et là, étape suprême, les mots liés au vocabulaire d'église s'enchaînent. On est en crisse, en ciboire, en calice, en tabarnak. Une façon pour les Québécois de se libérer de la religion en transformant ces objets sacrés en injures.
Pascal Garicola au Québec, merci beaucoup. Le Québécois et ses accents nord-américains. La langue française se métamorphose aussi sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, par exemple, où les expressions typiques fleurissent et s'exportent. On a même vu des mots de l'argot nouchi rentrer dans les dictionnaires français, inventaire de quelques expressions 100% ivoiriennes avec Abdoulaziz Diallo.
En Côte d'Ivoire, quand Cupidon s'en mêle, on dit souvent « je suis tombé dedans » pour exprimer un coup de foudre. Et si la passion est vraiment forte, on n'hésitera pas à affirmer « je suis fan », un peu comme pour une célébrité. Mais cette fois-ci, la star, c'est l'être aimé. Flirter tout en finesse. Ici, le flirt se fait avec délicatesse. Plutôt que de parler de flirter, on dira « faire des avances », »,« draguer doucement » ou « faire les yeux doux ». Quand ça ne va plus, si la relation se termine, tu entendras alors « on a cassé » ou où on n'est plus ensemble. Et si c'est douloureux, on parle de goumin, ce fameux cœur brisé. L'expression « on a coupé igname » marque une rupture définitive. Après une dispute, on dit « on a fait discours ». Si quelqu'un est très énervé, il dira « mon cœur est chaud » ou « mal gâté. Et si l'ambiance est à la rigolade, tu entendras « tu m'as tué ». Pas de panique, personne n'est mort. C'est simplement pour dire qu'il t'a fait rire aux larmes. Enfin, quand on est prêt à faire la fête, c'est le moment d'aller chauffer.
Abdelaziz Diallo à Abidjan, merci beaucoup, pas de goumain-goumain. Et puis dernière étape en Belgique, l'un des cœurs battants de la francophonie européenne, avec bien sûr la France, mais aussi la Suisse et le Luxembourg. Il faut même dire que le royaume des Francs est né en Belgique, et il n'y a d'ailleurs pas qu'une seule langue française en Belgique. La plus connue est le wallon, mais il y a aussi le bruxellois, le picard, le gommais et même le champenois. Chacune a ses particularismes, Pierre Benazet.
Les quatre langues parlées en Belgique francophone donnent un florilège d'expressions qui sont même pas communes à tous les Belges. D'abord, on se rencontre peut-être à une guindaille, c'est la fête. Et puis, en Wallonie, on tombe amoureux, c'est être bleu de quelqu'un. Alors qu'à Bruxelles, c'est avoir une bountieu pour quelqu'un. Si ça va plus loin, on va se donner une baise. Ça, c'est juste un bisou, rien à voir avec des ébats conjugaux. Ça, ça impliquerait la tiche du monsieur, c'est-à-dire son zizi. Quelquefois, ça débouche sur un mariage devant le bourgmestre à la maison communale. Mais malheureusement, ça finit pas toujours bien. Si les deux ont une brette, c'est-à-dire s'ils se disputent, ils vont être en rote, de très mauvaise humeur. Alors, on se divorce et chacun tire son plan pour jeter l'autre dehors de sa tête.
Pierre Benazet à Bruxelles pour RFI et notre tour du monde des correspondants à retrouver sur RFI.fr. 8h25 à Paris. Et dans 5 minutes sur RFI, un nouveau point sur l'info africaine. D'abord, comme chaque dimanche, notre rendez-vous de la biodiversité, c'est dans ta nature. Savez-vous ce qu'est une bourse aux insectes? Un rendez-vous où se pressent les vendeurs et les collectionneurs du monde entier, des entomologistes amateurs qui s'échangent leurs spécimens et peuvent parfois faire avancer comme ça la connaissance. La plus grande bourse aux insectes est à Tokyo et la deuxième, près de Paris, à Juvisy, la dernière en date. Était le week-end dernier, reportage Florent Guignard.
Nature morte, des insectes par milliers épinglés dans des cadres en bois, papillons, scarabées ou mille pattes, des insectes en tout genre, de toutes les couleurs et à tous les prix. On déambule dans les allées de la bourse aux insectes de Juvisy, au sud de Paris, en compagnie de son fondateur Patrick Arnault, et on s'arrête devant la star, un papillon d'un bleu éclatant.
Ça, c'est les morphos, ça, c'est très, alors, très recherché, c'est parce que c'est magnifique. Le bleu perdure, c'est pas un pigment, c'est uniquement l'orientation des écailles. Donc y a, dans les papillons, il y a le bleu, le vert, qui ne sont pas des pigments. C'est un jeu de lumière.
À l'image du morpho originaire d'Amazonie, la plupart des insectes exposés ici viennent des tropiques qui abritent 80% des espèces d'insectes répertoriées.
Les gens peuvent se faire plaisir avec un petit papillon à 3-4 euros. Bon, c'est pas ça qui va contribuer à diminuer la biodiversité. Là, il y a peut-être, je sais pas, 50 000 ou 60 000 insectes là, dans la salle. C'est ce qui disparaît en 2 minutes en coupant la forêt brésilienne.
Patrick Arnault, chimiste de formation, est devenu entomologiste amateur à la faveur de son service militaire en Guyane.
C'est un peu Sherlock Holmes, l'entomologie. Vous avez une bête sous les yeux. Vous essayez de voir si elle est vraiment nouvelle pour la science ou pas. Je vais avoir 80 espèces que j'ai décrites, moi. On vous dit, ah, vous tuez les insectes. Mais les insectes, malheureusement, pour les étudier, il faut les tuer. On ne peut pas, comme les oiseaux, uniquement en regardant le champ. Certaines espèces, en fin de compte, on voit la différence très faible par ce qu'on appelle le génitalia, c'est-à-dire le pénis.
Collectionneur au service de la science, Patrick Arnault a disséqué surtout des bousiers, ces scarabées coprophages.
Ces bêtes sont inféodées à certains types d'excréments, parce que ça dépend sûrement de la nourriture du mammifère ou d'autres, ce qui permet d'extrapoler sur la diversité des mammifères, qui eux-mêmes peut extrapoler sur la diversité de la flore.
1 300 000 espèces d'insectes ont été identifiées dans le monde. On estime qu'il en existe 4 fois plus.
Je respecte ton terrier, respecte mes terres. Je respecte les insectes, donc respecte les mammifères.
Ça pèse lourd, les insectes ?
Oh, une mouche, c'est à peine 1/100 de gramme. Mais les insectes, en réalité, pèsent très lourd dans la biodiversité. 80% des espèces d'animaux, c'est des insectes. Indispensables dans le cycle de la vie, ils représentent les 2/3 de la nourriture des oiseaux, 80% des plantes à fleurs aussi en dépendent pour se reproduire. Mais voilà, leur population s'effondre à cause de la déforestation, de l'agriculture et du changement climatique. Et selon une étude très pessimiste, les insectes pourraient tous avoir disparu dans 100 ans, entraînant l'humanité dans leur chute.
Florent Guignard pour Sédentaire Nature sur un air de Stromae et bienvenue sur RFI. Si vous nous rejoignez, l'info continue dans une minute. À tout de suite.
TV5 Monde Plus, c'est la première plateforme francophone mondiale. Films, séries, documentaires, culture, jeunesse. À l'occasion du sommet de la francophonie, découvrez nos sélections et nos coups de cœur venus des quatre coins de la planète. Partout, tout le temps, gratuitement. Rendez-vous sur l'application et le site tv5mondeplus.com.
Together Productions, World Tour Records, Jasper Prod et RFI Talent présente le Bénin International Musical. Découvrez Positive Vaudou, le nouvel album de ses ambassadeurs d'un rock animiste, disponible sur toutes les plateformes.